Et à la une ce matin en Israël, on va revenir bien sûr sur le bilan militaire de cette guerre qui a duré 12 jours entre l'Iran et Israël. Et on va voir le bilan du côté israélien bien sûr avec notre invité Stéphane Goldin, votre invité Lise, Stéphane Goldin, spécialiste de la sécurité défense.
Stéphane Goldin, bonjour.
Bonjour Lise, bonjour à tous les auditeurs.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, la question que je pose à tous mes invités ce matin, Stéphane, est-ce que vous-même, vous avez été surpris par cette annonce du cessez-le-feu faite par Donald Trump?
Oui, j'étais assez surpris parce que le travail concrètement n'est pas terminé. Alors d'un côté, j'ai été surpris, d'un autre côté, j'ai pas été trop surpris. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce n'est pas la première fois où les États-Unis se retirent à un moment où ils sont touchés. Je reviens sur ce qui s'était passé il y a deux mois et demi à peu près, au moment de il y a trois mois à peu près, les Américains avaient demandé que l'on ne bombarde pas les Houthis, pour dire clairement les choses, et avaient demandé à Israël d'externaliser l'affaire aux États-Unis. Et à cette époque-là, on était pris sur d'autres fronts, et c'est vrai que nous avions externalisé des choses. Et c'est vrai que les Houthis ont continué à nous bombarder à ce moment-là, malgré les frappes américaines sur le territoire yéménite. Or, il s'avère qu'au moment où une frappe yéménite a touché des avions américains, Donald Trump s'est retiré de l'affaire. Et du coup, nous avons dû reprendre les choses en main. Il s'est passé hier qu'il y a eu une frappe sur une base américaine au Qatar. Et je pense que cela a peut-être accéléré aussi la volonté de Donald Trump de calmer les esprits, de vouloir amener Israël aussi à un cessez-le-feu. Alors, d'un côté, je suis assez frustré. Je vais vous dire pourquoi et pourquoi le travail n'est pas terminé. Alors, c'est vrai que sur les installations nucléaires, il y a eu énormément de dommages, que les choses soient claires. Et c'est grâce aux États-Unis, il faut remercier le président Trump et l'administration Trump qui nous a aidés dans cette affaire. Mais pourquoi le travail n'est pas terminé? Puisque on n'a pas encore mis à mal, je dirais, les rampes de lancement de missiles balistiques je dirais, les usines de missiles balistiques. La preuve, c'est que quelques minutes, je dirais, avant ce cessez-le-feu, avant que ce cessez-le-feu rentre en compte, je dirais, il y a eu des tirs sur le territoire israélien et ces tirs ont fait un nombre de victimes relativement considérable et ont détruit un immeuble de 7 étages à Beersheba.
Vous disiez le travail n'est pas terminé, ça veut dire que l'Iran va pouvoir se réarmer rapidement?
Écoutez, l'Iran est un grand pays et l'Iran va pouvoir se réarmer. Nous avons l'habitude de cesser le feu avec Gaza, avec le Liban, et nous avons vu comment à chaque cessez-le-feu, nos ennemis ont eu le temps de se réapprovisionner, de se réarmer. Je pense que nous aurions dû aller jusqu'au bout du travail. Et quand je dis aller au bout du travail, c'est bien sûr, sur la question nucléaire, les choses sont plus ou moins réglées. Sur la question des missiles balistiques, les choses ne sont pas réglées. La preuve, c'est comme je viens de le dire, des missiles ont encore été tirés. Mais surtout, nous aurions dû tout faire pour aider le peuple iranien à se soulever et à éliminer, je dirais, ce régime terroriste qui est le régime des Mollahs. Parce qu'on le veuille ou non, la menace existera toujours tant que ce régime sera à la tête de ce pays qui s'appelle l'Iran. L'Iran, vous savez, est un grand pays. Les Perses, les Iraniens sont un grand peuple. La grande majorité des Iraniens sont des amis d'Israël et ne veulent plus voir le régime des Mollahs à leur tête. Et donc, je pense que nous aurions fait du bien pour le monde entier, pour la planète, si nous avions aidé le peuple iranien à se soulever et à virer, je dirais, ce régime terroriste de l'Iran.
Alors, on voyait bien, pourtant, Stéphane Goldin, que dès le début, dans les objectifs annoncés pour cette guerre par Benjamin Netanyahu et son gouvernement, il n'y a jamais eu de faire tomber le régime iranien.
Oui, je pense que c'est vrai que ça n'a jamais été dit objectivement et ouvertement, mais je pense que entre les lignes, c'est ce qui transpirait. Parce que quand vous avez quelqu'un comme Khamenei, qui déjà prépare sa succession, qui vit dans son bunker et qui pense plus à la fin de Nasrallah plutôt qu'à son avenir, je pense qu'il y avait, je pense, une façon de faire les choses. Je pense que c'était pas ni aux États-Unis ni à Israël, évidemment, de renverser le pouvoir iranien, mais toujours est-il que on avait la possibilité, peut-être, d'aider le peuple iranien à se soulever. La preuve, c'est que dès les premières frappes, le vendredi 13 juin, le peuple iranien est sorti dans la rue en applaudissant Israël. Et donc, il y avait une véritable volonté, en tout cas du peuple iranien, et je pense qu'encore une fois, on risque de frustrer le peuple iranien d'une véritable victoire. Ce n'est pas la première fois. La dernière fois, c'était par les États-Unis, non pas par Israël.
Alors, c'est le Qatar qui a servi d'intermédiaire et le Forum des familles d'otages vient de dire ce matin au gouvernement qu'il fallait étendre le cessez-le-feu avec l'Iran pour inclure un accord sur Gaza. Est-ce que c'est réaliste de pouvoir faire ça et de faire libérer les otages avec cet accord de cessez-le-feu?
Écoutez, cette guerre, pour le moment, elle n'est pas terminée puisqu'elle est encore sur le territoire de Gaza et tous les jours, nous menons des actions sur le territoire, sur l'ensemble de la bande de Gaza. Et oui, il va falloir trouver une solution par rapport à Gaza. Le travail n'est pas terminé là-bas non plus. Nous avons encore 50 otages qui sont dans les mains du Hamas. Est-ce que ce cessez-le-feu doit amener à une restitution des otages? Probablement et sûrement. Là-dessus, il n'y a les choses doivent être très sûres, mais aussi toute la question est du maintien du Hamas. Et donc là aussi, nous devons terminer le travail et éliminer la force politique et militaire du Hamas du territoire de Gaza.
Je voulais revenir avec vous sur quelque chose qui fait partie intégrante de cette guerre, Stéphane, c'est le côté cyber, les attaques et l'espionnage. On a beaucoup parlé des réalisations du Mossad, mais tout de même, hier, il y a eu donc une fois de plus quelqu'un qui a été arrêté, un Israélien qui a été arrêté pour espionnage contre l'Iran, qui avait été payé en crypto-monnaie. Il y a cette affaire des faux profils, Emmanuel Zetoun se faisant passer pour un journaliste d'I24 pour avoir des contacts avec des officiers israéliens. Ça veut dire que cette guerre, elle va pouvoir continuer aussi sur ce terrain malgré le cessez-le-feu.
Dans le renseignement, la guerre ne s'arrête jamais, même quand il y a la paix, pour dire clairement les choses. Et donc, oui, cette guerre va continuer, elle va continuer à différents niveaux, elle va continuer avec un renseignement technologique qui va continuer à se développer parce que malheureusement ou heureusement, grâce ou à cause des guerres, il y a une évolution des technologies qui se fait aussi au niveau de l'armement, mais aussi au niveau du renseignement. Mais il n'y aura pas que le renseignement technologique, je pense qu'il y aura aussi le renseignement humain. Va reprendre ses lettres de noblesse, et on l'a vu lors de cette guerre, et on l'a vu plus précisément lors de cette opération en Iran. Et donc, je pense que les choses vont évoluer d'une certaine façon au niveau du renseignement. Maintenant, c'est vrai qu'il y aura toujours des opérations de renseignement qui se feront d'un côté comme d'un autre, parce que n'oublions pas que nous avons aussi face à nous un ennemi qui a aussi des possibilités de renseignement, et donc nous devons tout faire aussi pour stopper, pour, je dirais, éviter toute possibilité pour les Iraniens de savoir ce qui se passe sur notre territoire. Et donc, oui, cette guerre de renseignement, elle va continuer parce que c'est aussi la façon pour Israël de gagner ses guerres. N'oublions pas que nous sommes un tout petit pays entouré d'ennemis et nous n'avons pas le choix. Et dans le fond, c'est comme un jeu d'échecs. Nous devons avoir nos deux, trois coups à l'avance.
Ma dernière question, hein, Stéphane Goldin, est-ce qu'on peut s'attendre à des attentats terroristes, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, contre des Juifs, des Israéliens, mais aussi des Américains et des Occidentaux?
Alors écoutez, vous m'auriez posé la question hier, je vous aurais dit concrètement oui, bien sûr que ça touchait Israël, mais ça touchait évidemment tous les intérêts israéliens, mais tout aussi les communautés juives dans le monde entier qui auraient pu être face à une cible. Maintenant, je pense que cette menace n'a pas disparu avec le cessez-le-feu, que les choses soient claires. Il y a toujours des éléments très extrémistes dans cette partie du monde qui voudront faire de la surenchère, pour dire clairement les choses. Et donc, n'oublions pas aussi un autre paramètre de cette affaire, c'est qu'il y a la guerre entre Israël et l'Iran, Israël et le monde chiite, pour dire clairement les choses, mais il y a aussi une guerre qui va se passer entre chiites et sunnites, et dans le fond qui devrait rééquilibrer, je dirais, les différends entre les pays musulmans, mais cela va aussi entraîner très probablement une surenchère d'attentats un peu partout dans le monde.
Merci beaucoup Stéphane Goldin d'avoir été avec nous en cette matinée importante, spécialiste des questions de sécurité et de défense. Une très bonne journée à vous, à bientôt.
Bon courage à vous tous.